Dieu est venu en ce monde pour bouleverser l'ordre du monde. C'est comme si Dieu, au travers de la naissance de Jésus, nous disait « Si vous pensez que le monde tel que vous le connaissez est mon dernier mot, vous vous trompez. » Alors c'est vrai qu'il faut commencer par dire qu'il est un peu bouleversant, cet incroyable récit, d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas d'ailleurs. Hein, ce récit de Dieu qui s'incarne en la personne de son Fils. Mais la naissance de Jésus n'est pas bouleversante seulement parce que l'Évangile affirme que Dieu est venu dans ce monde en se faisant homme, mais surtout parce que cela bouleverse toutes nos conceptions, toutes nos images de Dieu. En effet, si Dieu s'est fait homme, s'il décide d'entrer en ce monde comme n'importe lequel d'entre nous, alors Dieu doit être à des années-lumière des conceptions que nous avons de lui. Pour la plupart des Juifs de l'époque, Dieu était tout-puissant et aimait les puissants. Le simple fait que des hommes aient du pouvoir, de l'argent, une position sociale, manifestait aux yeux de tous qu'ils étaient bénis de Dieu. Que si on possédait des titres, des biens, de l'influence, c'est qu'on était béni de Dieu. C'est pour cette raison que les bergers, les plus méprisés de tous les hommes en Israël au premier siècle, sont aussi étonnés, éberlués, voire même choqués, que des anges leur annoncent à eux la naissance de celui qu'Israël attendait depuis si longtemps. Ils auraient dû annoncer cette nouvelle au roi Hérode, aux grands prêtres, aux spécialistes de la loi de Moïse, aux gens de pouvoir. Ça aurait été plus logique. Logique, sauf si Dieu n'est pas ce Dieu-là, le Dieu des forts et des puissants, mais au contraire le Dieu des pauvres, des fragiles, des faibles, et que sa puissance est une puissance d'humilité et d'amour. Dieu est amour, Dieu est humble. Rien que de le dire, ça va faire fuir tous ceux qui recherchent la toute-puissance, la bénédiction ou un salaire indu à leurs bonnes actions. Oui, Dieu est humble et il le prouve en cette extraordinaire nuit de Noël. Et je pense qu'il est très difficile de faire coexister nos fausses idées de Dieu et cette vérité-là. L'apôtre Paul, en méditant ce mystère, écrira l'une des plus belles pages de la Bible. L'exaltation de l'abaissement de Dieu au travers de la vie sur cette terre et de la mort de son Fils à la croix. Il écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Écoutez, hein, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car ne nous y trompons pas. Noël annonce déjà la croix. Le dénuement de l'enfant Jésus, le contact de son corps en cette mangeoire où s'abreuvent les bêtes de somme, nous disent quelque chose du rapport que notre Seigneur connaîtra avec le bois de la croix. Et quelque chose aussi de la vie qui sera la sienne parmi les hommes. Une vie de pauvre parmi les pauvres. Né dans le dénuement et l'anonymat, il mourra également seul et abandonné de tous. Alors est-il possible de s'abaisser davantage? Est-il possible d'aimer davantage? Car si l'humilité est le moyen, l'amour est la cause et le motif. Pour quelle autre raison au monde Dieu se serait-il abaissé si ce n'était pas pour nous dire à chacun « Je t'aime » les yeux dans les yeux? Et c'est cet amour de Dieu révélé qui a le pouvoir de bouleverser notre vie. La venue de Jésus a la capacité de changer notre vie car elle nous dit que Dieu est salut. C'est le sens même du nom de Jésus. Dieu sauve. Car avant d'être en nous, il fallait qu'il soit dans le monde. Il fallait qu'il nous ouvre les yeux sur notre aveuglement sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes. Non, Dieu n'est pas un Dieu distant et solitaire, n'éprouvant rien si ce n'est un profond sentiment de sa supériorité. Ça, c'est le Dieu des philosophes, pas celui de la Bible. Et oui, oui, nous sommes aveugles sur notre propre position, sur notre propre situation. Nous sommes aveugles sur notre véritable besoin profond. La preuve en est, c'est que le 24 décembre, la grande majorité des gens qui vont célébrer Noël n'auront aucune idée de ce que ça signifie vraiment. Et toutes les orgies consuméristes que l'on va commettre le soir du réveillon ne combleront d'aucune manière le vide cosmique, l'abéance douloureuse dans le cœur de l'homme. Tous ces succès d'années d'instantané de bonheur ne changeront rien au besoin fondamental de l'homme, à savoir Dieu. Même les piles de cadeaux sous le sapin, s'il y en a, ou la joie, souvent feinte ou surjouée, de passer un temps de retrouvailles en famille n'y feront rien. Le seul cadeau de Noël, c'est Jésus-Christ. C'est le cadeau que notre Père nous a fait et fait encore au monde aujourd'hui, son Fils. Bouleverser notre vision du monde, bouleverser la façon dont nous envisageons nos propres vies et bouleverser nos vies. La venue au monde de Jésus a bouleversé l'histoire du monde avec un grand H. Vous savez que dans la plupart des pays du monde, on date les choses à partir de la naissance de Jésus. Il y a avant Jésus et après Jésus, même si Jésus est né avant sa propre date de naissance. Ça, c'est une erreur de moine. Il faut leur lui pardonner, sans doute. La venue de Jésus en ce monde a bouleversé l'histoire, avec un grand H. Mais a-t-elle véritablement bouleversé la nôtre? En théorie, ce devrait être le cas, puisqu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, qui disons avoir cru en lui, nous sommes habités par sa présence. Il y a plus ou moins 5 ans de ça, j'ai rendu visite à un frère en Christ, comme on l'appelle. Et ça faisait longtemps, très longtemps, donc je ne l'avais pas vu. Plusieurs années donc. Je suis resté chez lui un peu moins d'une demi-heure. Ça a été vraiment très difficile pour moi de même rester une demi-heure. En sortant, je n'ai pas pu m'empêcher, c'est pas gentil, hein, je sais, mais personne n'a dit que je l'étais. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser avec une énorme tristesse, il n'a pas changé. Toujours le même. Pas ou plus de bouleversement dans sa vie, dans son être. Et plutôt que de me concentrer sur lui, je me suis dit, et dans la mienne? Qu'est-ce qui change encore dans la mienne? Dans la vôtre? Pourtant, qu'y a-t-il de plus bouleversant que de se savoir sauvé, aimé et habité par Dieu? Qu'y aurait-il de plus important et de plus bouleversant que ça? Que pourrait-il y avoir de plus important pour ceux que nous disons aimer, notre entourage, donc notre famille, nos amis, que de leur dire, à l'instar des anges, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie, pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Quels que soient les problèmes que vous connaissez, surtout, quels que soient les problèmes éventuellement que connaissent les êtres qui vous sont le plus proches, l'important, il est là. On aime bien réparer les choses, moi le premier, hein, j'ai été un peu formé pour ça et appelé pour ça, mais qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental que ça? Alors j'ai un petit rappel pour vous aujourd'hui. Les anges, nos jours, ils ne laissent plus traîner leurs ailes derrière eux ou des plumes comme vestige de leur passage. Ils laissent traîner des vestes, des pulls, certains cas des chemises, des cravates. Aujourd'hui, ceux qui sont chargés de proclamer la bonne nouvelle de Noël, c'est nous, ce ne sont plus les anges. C'est nous que Dieu envoie. C'est d'ailleurs le sens du terme grec « angelos », ange, qui signifie simplement « envoyé ». Nous sommes donc, nous les chrétiens, chacun d'entre nous en envoyé du Seigneur en cette fête de Noël. Et notre message consiste à annoncer comme tout à nouveau qu'un sauveur nous a été donné, que c'est ça, et uniquement ça, le message de joie de Noël, le sens de Noël. C'est cela qui doit remplir notre cœur de joie. Pas de se savoir qu'on va peut-être recevoir un nouveau rasoir électrique ou, je ne sais pas, une nouvelle montre, une nouvelle cravate. Une nouvelle compilation de Nile Rodgers. Remasterisée, quand même. C'est important. Non, mais j'ai des exigences. C'est cette joie toujours renouvelée en nous par l'Esprit du Christ qui devrait nous remplir et nous combler. Dieu, en cette nuit étoilée, a bouleversé notre image de lui. L'image du monde, l'histoire du monde et notre vision de nous-mêmes. Et il veut aussi bouleverser nos vies comme tout à nouveau, ou pour la première fois. On doit peut-être être éveillé, ou alors venir à la vie. Et si pour une fois, j'ai un côté cinglé, donc je me lance, hein, si pour une fois, nous tentions d'être conséquents, ça veut un peu dire quand même qu'on ne l'est pas toujours. Hein, voilà. En Sonnel 2018, je vous propose de réfléchir. Après, il faudra arrêter de réfléchir et faire quelque chose quand même, hein, ça changera. Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, au moment où je parle, le Christ a déjà fait de votre cœur son temple. Demandez-vous simplement, mais honnêtement, ce n'est pas toujours facile même devant Dieu. Quel genre de vie je mène? C'est la première indigestion de Noël, ça. Quel genre de vie je mène? Quel sens est là ma vie? Pratiquement, hein, pas en théorie. Quelles sont mes priorités? Si vous voulez un scoop, hein, ça peut vous aider. Vos priorités, c'est ce que vous faites. C'est tout. Ça n'est pas très compliqué. Listez sur vos journées, une journée classique, et ce qui va constituer votre journée classique, travail compris, c'est, ça constitue vos priorités. C'est comme les gens qui disent « je t'aime » et qui frappent leur femme. Ben, est-ce que c'est vraiment très cohérent? Ce qui compte, c'est qu'ils frappent leur femme. Et ça n'est pas de l'amour. D'accord? Et est-ce que ma vie actuelle est compatible? Ça, c'est important. Deuxième niveau. Mais ça va venir très vite, vous savez, il va vous aider. Hein. Et est-ce que cette vie-là, celle que je mène, ma vraie vie, pas celle que je fantasme, ma vraie vie, est-ce que cette vie, ma vie actuelle est compatible avec l'appel que Dieu a placé sur ma vie? Est-ce qu'elle honore ce Dieu, ma vie, qui un jour nous a appelés par notre prénom pour la première fois? Ça vous est tous arrivé, vous avez peut-être oublié. Hein, en vous disant « je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. » Vous avez entendu ça, vous savez, la première fois où Dieu a prononcé votre prénom. Alors, dans l'idéal, lorsque Dieu pose son regard sur notre vie, nous devrions l'entendre faire la même déclaration que celle prononcée le jour du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils, ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Baptisés, nous l'avons été, hein, pour la plupart. Qu'en reste-t-il? C'est aussi que ça sert les fêtes liturgiques, hein, c'est faire le point. Si par contre vous posez encore des questions, et je sais qu'il y a des spécialistes, hein, j'en faisais partie, donc pas de jugement et pas de problème par rapport à ça. Hein. Les pasteurs ont été un peu formés pour donner des réponses les moins stupides possibles aux questions qu'on pose. Hein. Donc si vous posez encore des questions, si vous n'êtes encore sûr de rien, mais peut-on l'être vraiment par rapport à Dieu? Osez poser, ça c'est votre challenge de Noël, osez poser la question à Dieu lui-même. Est-ce que tout ça est vraiment vrai? Est-ce que tout ça est vraiment arrivé? Est-ce que tout ça est réel? Historiquement, c'est prouvé, la naissance de Jésus, etc. Mais bon. Est-ce que surtout tu as fait tout ça pour moi? Vous savez, encore aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal à me dire que sur la croix, Jésus pensait à moi. Et pourtant, il pensait à moi. C'est un truc de fou, hein, mais... Je crois qu'il faut être courageux à un certain moment. Et il vaut mieux parfois, comme le dit le proverbe, s'adresser à Dieu qu'à ses anges. Il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. C'est ça l'esprit de Noël dont parlait Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis, très mauvais d'ailleurs, mais peu importe. Qu'en ce temps de Noël, nos voix se mêlent au cœur des anges et proclament à tue-tête le véritable et unique message de Noël. Et que cette joie véritable, la joie de Noël, puisse inonder, vraiment, hein, comme un fleuve d'eau vive, rappelé il y a quelques semaines, puisse inonder notre cœur. À nous qui savons, qui avons cru, qui avons connu le vrai sens de Noël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.